La parole de Dieu est bénie à toujours. Maintenant, celui qui la porte a besoin d'être béni et oint du Saint-Esprit. Le thème est vaste. Il est un peu dans le prolongement de ce que j'ai déjà prêché concernant cette intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire. C'était ce qui qualifiait, ce qui singularisait une tribu en Israël, la tribu d'Issacar. Et c'est parce qu'ils ont reçu cette intelligence des temps, et nous avons vu pourquoi, qu'ils ont pu, avec eux, entraîner le peuple d'Israël dans la bonne direction. Nous prions, et je vous invite à prier chaque jour pour que Dieu vous donne l'intelligence des temps, pour savoir ce qu'il vous faut faire. L'intelligence des temps, c'est le discernement. Dans les temps, comprendre, discerner les temps que nous vivons, de manière à ne pas nous laisser aller au courant, entraîner par le courant de notre siècle, mais de pouvoir à certains moments remonter le courant, résister au courant. Alors je voudrais vous conduire avec moi à deux lectures dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, dans l'Ancienne Alliance, chapitre 10, verset 12. Et puis ensuite, nous lirons au chapitre 12 et au verset 8. Alors d'abord, Daniel, chapitre 10, verset 12. Il me dit, c'est-à-dire l'ange qui visite Daniel, me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et le second passage, chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Voilà deux versets qui semblent énigmatiques pour quelqu'un qui n'est pas coutumier de ces livres particuliers. Nous sommes dans un livre particulier, celui de Daniel. Daniel est à l'ancienne alliance, ce qu'est l'Apocalypse à la nouvelle alliance. Daniel fait partie de cette littérature apocalyptique. Vous le savez, Apocalypse n'est pas synonyme de désastre, de destruction, de... Oui, hier, nous avons eu un ciel rouge. Et j'ai entendu des gens qui étaient interviewés et qui disaient que c'était un ciel apocalyptique. Mais ce n'est pas cela, l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, dévoilement. Le livre de Daniel doit être lu avant celui de l'Apocalypse. Il est antérieur chronologiquement, ça se comprend. Mais aussi, la révélation va en augmentant. Alors déjà, Daniel, à son époque, cherchait à comprendre. Il vivait dans un contexte défavorable. Il avait été arraché à sa culture, à sa famille, à sa ville, à son culte. Transporté manu militari à Babylone. Dans la Bible, il y a toujours guerre entre Jérusalem et Babylone. Ce sont deux villes antagonistes. L'une est la ville de Dieu, l'autre est la ville du désordre, de la confusion, du diable et des démons. Et là, c'est tragique parce que c'est Babylone qui gagne sur Jérusalem. La ville est détruite, le temple est détruit, le culte est suspendu. Et Daniel se retrouve dans cette ville, dans cette culture chaldéenne qui n'est pas la sienne. Et là, on l'a choisi pour différents critères. Mais toujours est-il qu'il est choisi et qu'on veut et qu'on doit le reformater. Et comme le premier reformatage commence par changer son identité. Les noms dans la culture juive ont une grande importance. On ne donne pas un nom comme ça à un enfant parce que c'est la mode. Tiens, c'est la mode des Matisse, c'est la mode des... Bon. On lui donne un nom qui va correspondre parce qu'il y a là une intuition. Cet enfant est prévu pour un plan particulier. Alors on va l'appeler comme cela. Daniel veut dire, en hébreu, « mon juge est Dieu ». Il y a un suffixe, « Dan, El ».« El », c'est le nom de Dieu. « Mon juge est Dieu ». Je veux que mon juge soit Dieu. Maintenant, je sais qu'en Jésus-Christ, je ne suis plus jugé. Donc, je ne suis plus condamné. J'ai été justifié, acquitté. Alléluia. Alors, ce nom parle de ce Dieu. Mais où est Dieu? Ben, il semble s'être évanoui pour les Juifs. Alors, on change son nom et on va l'appeler Belshazzar. Et là, on met un préfixe. Tout à l'heure, c'était le suffixe. C'était ce nom de Dieu qui donnait sens à la vie de Daniel. Aujourd'hui, on change son nom. On veut casser son identité, son origine. On va l'appeler et on t'appellera maintenant dorénavant Belshazzar. Bel, le dieu de la divinité à Babylone. Belshazzar, ce qui voudrait dire Dieu est le prince. Quel est votre prince? La Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Je ne souhaite pas que ce soit là votre prince. Et si ça l'est encore, il vaut vite changer et venir au Seigneur pour qu'il mette son nom sur votre vie. Et comme cela n'est pas suffisant, on l'envoie sur les bancs de l'université chaldéenne pour qu'il apprenne les lettres et la philosophie chaldéenne. Et comme si ce n'était pas suffisant, on va le nourrir des mets du roi. Oh, beaucoup ne s'en plaindraient pas. Être à bénéficier du menu du roi, confectionné par les plus grands cuisiniers de l'époque, c'était pas rien, tous les jours, bonbons. Le problème, c'était que ces mets, ces viandes étaient sacrifiées aux idoles. Et Daniel ne veut pas être en communion avec les idoles. La Torah interdit de se prosterner devant les idoles. Ça va que déjà, on a introduit dans son nom le nom d'une idole. Va-t-il se plier encore? Il résiste et là, il refuse. Et il demande un régime végétarien. C'est le premier vegan. Des légumes, de l'eau. Et au bout du compte, lui et ses compagnons qu'il a entraînés, c'est bien qu'il y ait des leaders qui entraînent vers le bien. Aujourd'hui, nous avons tant de leaders qui entraînent la jeunesse vers les bas-fonds. La jeunesse chrétienne doit se révolter contre cette abêtisation. On vous abêtise, on nous abêtise. Résistez, relevez toutes ces séries qui tournent toujours autour des mêmes misères, des mêmes drames, des crimes, des viols, des assassinats. Une culture mondialiste, Netflix. Alors je ne dis pas que tout est mal sur Netflix. Il y a de bons films sur Jésus sur Netflix. Il y en a de mauvais. Je ne veux pas noircir davantage le tableau. Mais ils refusent cette alimentation. Et ils s'avèrent tout de suite plus intelligents, plus sages que tous les magiciens, tous les devins, tous les voyants, tous les astrologues. Alors qu'ils sont mis en échec, lui, Daniel, triomphe. Non pas Daniel triomphe, mais l'Esprit de Dieu qui est dans Daniel triomphe. Et lorsque le roi Nabucodonosor demande à ce que non seulement on lui explique le songe qu'il a eu, mais il n'y a qu'un monarque absolu qui peut être aussi exigeant, qui demande à ce qu'on lui dise le songe qu'il a eu parce que lui, il a oublié. Alors les devins, les astrologues, les voyants, ils disent, roi, jamais personne n'a pu demander une telle chose que toi, c'est impossible. On veut bien t'expliquer le rêve, mais dis-nous, quel est ce rêve? Alors à l'époque, la vie n'avait aucun prix. Ça ressemble un peu aussi à notre époque, où la vie humaine n'a plus de valeur. Et le roi dit, puisqu'il en est ainsi, hop, tout le monde à la casserole. Tous les astrologues, tous les magiciens, tous les voyants, tous les sages de mon royaume, ils décrètent une condamnation à mort. Et Daniel avec. Alors Daniel se tourne et il demande audience au roi, il dit, c'est impossible ce que tu demandes, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi peut me révéler ces choses. Alors, laisse-moi quelque temps et je reviendrai, je t'expliquerai tout cela. Alors, il fait vite une réunion de prière avec ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se réunissent, ils prient et Dieu lui révèle le songe et l'explication. Vous n'avez pas envie d'être rempli de cet esprit-là? C'est le même esprit. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de clairvoyance. Et ainsi, il dévoile à ce roi, Nabucodonosor, dont l'histoire profane a retenu ce nom, il révèle la vision de cette statue immense qui résume 7 siècles d'histoire à venir, présente et à venir. La tête est d'or, le torse est d'argent, puis ensuite le bronze et les reins succèdent dans cette statue, puis après le fer, et puis chose étrange, les pieds sont d'un mélange d'argile et de fer. Au fur et à mesure qu'on descend, les matériaux ont de moins en moins de valeur. L'argent, ça a moins de valeur que l'or. Le bronze, moins de valeur que l'argent, etc. Mais en même temps qu'il y a une perte de valeur, il y a un gain de résistance. L'argent résiste plus que l'or. L'or est ductible. Le bronze est plus solide que l'argent et l'or. Le fer l'est encore davantage. Mais quand on arrive à l'argile et aux pieds, on se dit que ça ne peut pas faire un alliage. C'est une association hétérogène. Ça ne peut pas être homogène. 7 siècles. Et tout s'est réalisé à la lettre. Il y a 6 royaumes qui se succèdent. Je n'ai pas le temps de en parler. Mais à un moment, il y a une pierre qui se détache et qui roule. On ne sait pas d'où elle vient. Et hop, elle tape dans les chevilles, le point faible. Le fameux talon d'Achille. Le fameux, d'où l'expression, le colosse au pied d'argile. Ça vient de là. Et la pierre vient taper. Et cette statue gigantesque est réduite en poussière. L'or, l'argent, le bronze, le fer, tout est pulvérisé, anéanti. Ce qui veut dire que tous ces royaumes célèbres, qui ont fait trembler la terre, qui ont produit des ravages terribles, sont totalement désintégrés, détruits. Et cette pierre devient une grande montagne. Septième royaume, une grande montagne. C'est qui cette pierre ? C'est Jésus. Jésus qui triomphe. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et il nous a présenté le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Il nous parle de cette graine de sénevé, une petite graine minuscule qui tout à coup, croissant, devient un arbre gigantesque. Le royaume de Dieu vient comme quelque chose d'insignifiant au départ. Et tout à coup, prend une ampleur extraordinaire. Le royaume de Dieu qui vient dans votre cœur, qui est en train de prendre la place dans votre cœur, qui est en train de grandir, qui se développe. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Je change, je ne suis plus le même, je ne me reconnais plus. Ça vous fait peur ? Non, réjouissez-vous. Royaume des cieux qui s'installe dans votre cœur. Et cette grande montagne, c'est le royaume de Dieu. Et après, il n'y a plus de royaume. C'est ce royaume qui nous attend, qui vous attend. Nous avons chanté « Un bel avenir nous attend ». C'est ça ce bel avenir. Tous les royaumes de la terre, tous les princes, tous les empereurs, tous les prétendus dictateurs, tout cela disparaît. Daniel cherche à comprendre dans quel temps il est. Et l'ange lui dit, parce que tu as cherché à comprendre et parce que tu t'es humilié, je vais t'expliquer. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur dit, celui qui reçoit la parole et qui ne la comprend pas, le malin vient et la dérobe. Pourquoi il ne la comprend pas ? Parce qu'il ne veut pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Si vous avez un cœur ouvert pour comprendre, alors vous allez comprendre. Le Seigneur va vous ouvrir l'esprit. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Je me suis plus d'une fois gratté à la tête. Je me suis demandé plusieurs fois, « Seigneur, je ne comprends rien. » Et j'allais à la réunion, et juste le pasteur prêchait sur le passage que je n'avais pas compris. Et je sortais de là, j'ai dit, « Mais comment tu n'as pas compris ? C'est simple. » Le ministre des Finances, non pas le nôtre, mais celui de la reine de Séba d'Éthiopie, qui revient de Jérusalem, il lit le prophète Ésaïe. Et Philippe, qui est envoyé par Dieu sur ce chemin de désert de Gaza, arrête le char et pose la question tout de go à ce ministre, « Comprends-tu ce que tu dis ?» Et le ministre lui dit dans son humilité, « Merci Seigneur pour les ministres humbles, comment comprendrai-je si personne ne m'explique ?» Alors Philippe s'est assis à côté de lui, il lui a expliqué les Écritures. Et le ministre a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il avait tout compris, il n'a pas prêché particulièrement sur le baptême, mais il a compris qu'il devait se faire baptiser. Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, voyant de l'eau, il le baptisa. Quand on veut comprendre, quand on cherche à comprendre, nous avons à nos côtés le Seigneur. Est-ce que vous cherchez à comprendre? Ou est-ce que vous vous laissez glisser sur le flot de ce monde? Mais à un moment, nous avons lu que Daniel ne comprend pas. Eh oui, on ne peut pas tout comprendre. Mais pourquoi ne comprend-il pas? Eh bien, parce que ce n'est pas pour son époque. De plus, l'ange lui dit, après lui avoir révélé beaucoup de choses, et je voudrais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour faire plaisir à Benjamin, hein. Qu'il y a un peuple qu'on ne peut pas rayer de la carte. Il y a un peuple que l'on ne peut pas écarter du dessein divin. Parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Ce peuple, c'est Israël. Et si nous voulons comprendre, nous avons besoin d'entrer dans notre compréhension Israël. Le peuple élu, le peuple choisi, qui demeure bien qu'écarté pour l'instant. Mais le fait, Paul le dit dans l'Épître aux Romains, le fait qu'Israël ait été écarté nous a permis, nous, d'entrer. Sinon, il y aurait écrit complet. Alors, à cause de sa désobéissance, de son infidélité, Israël est écarté et Dieu se tourne vers les païens que nous sommes. Nous qui n'étions pas un peuple, nous qui étions étrangers aux alliances, aux promesses, il a fait de nous un peuple. Il nous a adoptés. Nous sommes, vous êtes, je suis un enfant adopté, mais un enfant avec toutes les promesses, tout le statut lié à l'enfant légitime. Je suis parfaitement, totalement, complètement adopté. Vous êtes fille, fils de Dieu à part entière. Nous avons été coupés de l'olivier sauvage. Et nous avons été greffés sur l'olivier franc. Israël a été écarté pour un temps. Et la parole de Dieu nous dit que le plan de Dieu, c'est des deux d'en faire qu'un. Des juifs et des païens, Dieu ne fait qu'un peuple. Il a renversé le mur qui nous séparait, l'inimitié. On ne peut pas être chrétien et antisémite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, on peut se désolidariser d'une politique. Ça, c'est autre chose. On peut ne pas être d'accord avec la politique d'Israël. Oui, peut-être. Mais on ne peut pas être anti-juif. Ce n'est pas possible, parce que vous vous niez vous-même. Alors à un moment, nous avons lu dans le texte, j'entendis, mais je ne compris pas. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Et l'ange répondit, va, Daniel, car ses paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je vous ai dit au départ qu'il fallait lire dans le même style apocalyptique Daniel, puis ensuite l'Apocalypse. Et à plusieurs siècles de différence, 4-5 siècles après, le même ange, s'adressant à Jean, l'apôtre, lui aussi en exil, comme Daniel, s'adressant à Jean, lui dit, dernier chapitre de l'Apocalypse, vous souvenez ce que l'ange a dit à Daniel ? Celle, ce livre, ça ne doit pas se dire encore. Tu ne comprends pas parce que tu ne peux pas comprendre. Parce que ce n'est pas encore pour toi. Et là, qu'est-ce que nous trouvons ? Le même ange disant, ne tiens pas secrète les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et c'est parce que le temps est proche que les scellés sont enlevés et que le mystère de Dieu est révélé. Par contre, ce que l'ange dit à Daniel, plusieurs alors seront purifiés, blanchis et épurés. Purifiés, blanchis, épurés. Qui sont les purifiés, les blanchis, les épurés ? Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un moyen d'être blanchi, purifié et épuré, le sang précieux de Jésus. L'effusion du sang de Jésus. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même pour nous une victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Et Jean, dans sa première épître, nous rappelle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pour ce temps où l'on pourra être purifié, blanchi et épuré que des choses sont révélées. Épuré. On est épuré comment ? Qu'est-ce qui est pur ? Comment l'or est épuré ? Par le feu. Et cela nous parle d'une épreuve terrible. L'Apocalypse en parle. Et les temps où nous sommes ressemblent étrangement à ces temps de la fin. Où l'épreuve est là, la tension est là, l'angoisse est là, l'incertitude est là. Et si nous n'avons pas le Seigneur, et je dirais même avec le Seigneur, si nous manquons de racines et de relations avec le Seigneur, nous connaîtrons nous aussi la peur, et nous connaissons, et nous pouvons connaître la peur, la crainte, l'angoisse. C'est pour les temps où certains seront blanchis, purifiés épuré. Ne scelle pas, il faut que ça se sache. Et vous le savez. Et vous devez chercher à comprendre dans quel temps nous vivons. Daniel est un modèle de résistance. Daniel est un modèle de fidélité. Nous ne pouvons pas faire moins que lui parce que nous avons reçu plus que lui. La connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il n'avait pas encore, bien qu'il pressentait. Nous avons l'intégralité de la révélation que Daniel n'avait pas. Il se contente de lire le livre de Jérémie. Et c'est en sondant le livre de Jérémie qu'il trouve. Non, nous avons toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous la boudons trop souvent. Vous savez qu'il y a des hommes de l'Ancienne Alliance qui vont se lever à un moment et qui nous diront, mais nous avons été témoins dans notre époque. Nous avons été fidèles dans notre époque. Noé se lèvera. Il condamnera toute la génération parce que lui a cru. Et si Noé a cru, tout le monde pouvait croire. Noé, par sa foi, condamne toute sa génération. Ça prouve qu'on peut croire. Ça prouve qu'on peut être tout seul contre tous. Ça prouve qu'on peut se lancer dans une idée. Enfin, une idée. Une idée inspirée par Dieu. Ça ne lui a pas jailli comme ça un matin en se levant. Construire l'arche au milieu des terres. Ça prouve qu'on peut faire des choses insensées. Parce que Dieu nous le demande. Insensées aux yeux des autres. Insensé à ceux qui ne croient pas, insensé à ceux qui ne veulent pas comprendre. Daniel, il n'a pas pleuré en disant « c'est trop dur, j'y arriverai pas, je suis un pauvre mec, je suis tout seul, je suis coupé de mes parents, je suis coupé de mes amis, je suis coupé de Jérusalem, je suis coupé du temple ». Alors il s'est levé et il déclare au grand, c'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui est maître des royaumes, des temps, des circonstances. C'est Dieu qui met là, où il veut, quand il veut, pendant le temps qu'il veut, ceux qui nous gouvernent. Il patiente jusqu'au moment où il décide, ça suffit, tu n'as pas compris, au suivant. Monsieur Poutine et d'autres, attention, Dieu vous supporte. Dieu a supporté Nebuchadnezzar jusqu'au moment où il est devenu insupportable. Il a dit, tu vas comprendre, et il l'a fait brouter comme un mammifère. Lui, le roi absolu, à quatre pattes, en train de manger de l'herbe. Jusqu'à ce que la raison lui revienne, qu'il se repente et qu'il déclare « C'est le Dieu du ciel qui est le Dieu. C'est le Dieu de Daniel qui est le Dieu. J'ai eu de la folie. » Ne cède pas. Ne ferme pas ce livre. Il faut que la nouvelle soit répandue. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Alors on entendit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ces 10 jeunes filles s'étaient endormies. Il nous est dit, comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Il m'arrive de penser que l'époux tarde. Mais en tout cas, je sais une chose, que ce n'est pas le moment de m'endormir. Que le moment est venu de faire des réserves. Pas seulement de riz, de pâtes, de pommes de terre et de tout ce que vous voulez. Ce qui serait peut-être sage. Mais des réserves d'huile. L'huile symbolisant le Saint-Esprit. L'esprit que je reçois dans la communion avec le Seigneur, dans la relation avec Dieu. L'esprit que je reçois lorsque j'ouvre grand mon cœur et que je dis, Saint-Esprit, viens remplir mon cœur, viens visiter tous les compartiments de mon cœur profond. Oh, je dépose à tes pieds mes blessures. Mes souffrances, je t'apporte tout. Je cherche dans ta parole, je veux comprendre. Et Seigneur, tu veux que je comprenne. Mais il dit en même temps que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Il est dit en même temps, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il est souvent question du méchant dans la Bible. Le méchant, ce n'est pas celui qui a mauvais caractère. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas de Dieu, qui entend cette voix douce qui l'appelle et qui la refuse. Je ne souhaite que personne ne soit dans cette attitude ce matin. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez ouvrir votre cœur. Alors, les méchants ne comprendront pas. Et malheureusement, nous sommes entourés d'une majorité d'êtres humains, quoique on ne connaisse pas exactement ce qui se passe dans le cœur d'un être humain. Je laisse à Dieu ce jugement. Mais quand on se tourne à droite et à gauche, que d'incrédulité, que de rejet de Dieu. Je ne vous apprends rien. Combien veulent venir écouter l'Évangile ? Combien sont prêts à accepter que vous leur offriez la Bible ? Ils ne sont pas nombreux. Les méchants ne comprendront pas. Nous sommes dans un monde qui ne comprend pas parce qu'il ne veut pas comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et cela est dit 7 fois. À la fin des lettres écrites aux églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Mais il est dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est quoi l'intelligence ? C'est un quotient supérieur à la moyenne ? Un QI supérieur à la moyenne ? Non. Les intelligents, c'est ceux qui ont compris que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Les intelligents, ce sont ceux qui ont accepté que leurs yeux s'ouvrent sur la splendeur de la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, les intelligents, ceux qui auront de l'intelligence, comprendront. Veux-tu comprendre ? Le titre de mon message, c'est « Chercher à comprendre ». Mais veux-tu comprendre ? Es-tu prêt à accepter ce que le Seigneur te dit ou va te dire ? Celui qui ne comprend pas la parabole, Jésus l'expliquant, celui qui ne comprend pas le malin vient et enlève la semence. Si tu ne veux pas la comprendre, le diable va s'en charger de la semence de Dieu. Si tu ouvres ton cœur et si tu as un cœur honnête et bon, cette semence va porter du fruit. Alors je termine. Par ce verset, Romains chapitre 14, verset 11. Vous connaissez le temps où nous sommes. Connaissez-vous le temps où nous sommes? Si vous n'êtes pas convaincu, alors cherchez tout de suite à comprendre rapidement. La conséquence, c'est sortir de votre sommeil. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Je me suis converti en 1962, beaucoup n'étaient pas nés. J'ai pensé que je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfants, je n'aurai pas de petits-enfants, que je n'atteindrai pas la retraite parce que le Seigneur allait revenir. Mais le salut était encore loin. Mais pendant toutes ces années, je me suis accroché, j'ai persévéré. Daniel a pour moi été un modèle de résistance, de fidélité, d'endurance. Le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. Maintenant, il est plus près de moi, le salut. Ça fait 62 ans que je dis, viens Seigneur Jésus, viens. Et maintenant, il est plus près. Il est plus près de vous. La nuit est bientôt finie. J'oserais dire que cette nuit va encore s'épaissir un peu plus. Attendons-nous à des temps encore plus durs et plus difficiles. Notre monde, non pas seulement notre pays, mais notre monde est sur un baril de poudre. Les dettes des pays augmente. Ça va exploser. Nous allons nous retrouver devant une crise financière et économique grave, très grave. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors, la conséquence de tout cela, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Et l'Apocalypse termine, chapitre 22, par « Ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. » Démarquez-vous, démarquons-nous. Relevons-nous, redressons la tête, saisissons les armes de la lumière. Et le premier équipement, et nous l'avons vu hier avec les disciples, le premier équipement, Éphésiens chapitre 6, consiste à avoir la ceinture de la vérité. Ça commence par là, la ceinture de la vérité dans un monde inspiré par le Dieu de ce monde qui est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui, il ne peut pas se tenir dans la vérité parce qu'il est le menteur et meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8. Je nomme le diable, Satan, l'adversaire. Les chrétiens doivent avoir la ceinture de la vérité et c'est la vérité qui met en fuite le diable, ses accusations. C'est très enflammé. Tout ce qu'il peut vous raconter, vous devez le contrecarrer avec d'abord le bouclier de la foi et ensuite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cherchons à comprendre. Il est temps de comprendre ce que Daniel n'a pas compris parce qu'il n'était pas dans l'époque. Aujourd'hui, nous le comprenons parce que les sceaux ont été arrachés, le livre est ouvert, la révélation est là, la prophétie se réalise, la pierre a roulé, la statue s'est écroulée et cette pierre est devenue une grande montagne. Le royaume de Dieu est là. Il vous appelle, le Seigneur vous appelle. Vous qui n'êtes pas encore rentrés dans cette arche de salut, ce matin, il est temps d'y rentrer. Et vous qui vous laissez tranquillement balloter, induire en erreur dans une fausse sécurité, il est temps de vraiment prendre position, revenir au Seigneur, retrouver votre ferveur, le feu de Dieu en vous. Amen. Seigneur, que ta parole ce matin puisse être gardée. Après avoir été entendue, lue, nous avons la nécessité de la garder. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde la parole de la prophétie. Alors je te prie pour mes sœurs et mes frères, et ainsi aussi pour moi, Seigneur, garde-nous, vigilants, veillants, priants, près de toi. Garde-nous des ruses de l'adversaire, des pièges du diable. Garde-nous de nous laisser déchoir, attiédir, renouvelle le feu en nous, réveille-nous. Mais tu nous dis, et les deux actions sont simultanées, réveillez-vous, et ça c'est notre responsabilité, mais nous pouvons te dire aussi, réveille-nous Seigneur. Amen.